Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour notre numéro mensuel du grand écran, la série que nous dédions au 7e art. Comme de coutume, il y a deux films au sommaire de cette émission. Le premier est actuellement à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. Il s'agit de La Maison des Femmes, premier long métrage de la réalisatrice française Mélisa Godet. Pour le second, trois semaines avant le Vendredi Saint, j'ai choisi de revenir sur un des nombreux films consacrés à la Passion du Christ, en l'occurrence Golgotha, tourné par Julien Duvivier en 1935. Et pour ce nouveau numéro du grand écran, je retrouve mes deux complices cinéphiles, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à vous deux, merci d'être au rendez-vous. Pour parler d'abord du film auquel vous consacrez le ciné-parole que vous animez à l'ABC, mardi prochain le 17 mars à 14h30, ce sera après la projection de La Maison des Femmes, film réalisé donc par Mélisa Godet. Je disais en introduction que c'est son premier long métrage, est-ce que vous confirmez l'information, Louis-Marie ?
Oui, son premier long métrage, elle a à son actif aussi deux courts métrages, mais il faut noter qu'elle a été formée à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et après elle a rejoint les productions du Trésor, c'est comme ça qu'elle est entrée dans le monde métier. Du cinéma, dans le métier, et elle a contribué à des projets remarquables comme Police, oui, en 2011, Populaire en 2012. Et puis, elle a écrit aussi, ou co-écrit, le scénario d'un film qui s'intitule « Comment je suis devenu un super-héros » de Douglas Attal, un film qui est sorti en 2020. Donc, effectivement, elle est jeune dans le métier, mais elle a quand même acquis quelques expériences qui lui permettent de justifier, si besoin était, la mise en scène de ce long-métrage donc, qui s'appelle « La Maison des Femmes ».
Et puis, juste pour l'anecdote, parce que ça ne change pas grand-chose à son parcours dans le milieu du cinéma, c'est une ancienne élève de Sciences Po Toulouse. Donc elle a été quelques temps dans la Ville Rose, quelques années manifestement. Alors concernant la distribution de La Maison des Femmes, je pense que c'est important qu'on en parle d'emblée, parce que même si c'est son premier long métrage, il y a quelques têtes d'affiche dans les rôles principaux.
Ah oui, elle a un très beau casting qui va... justement chercher, puiser dans des figures du cinéma français et du cinéma et des personnages féminins, bien sûr. C'est un film choral, donc il est logique qu'il y ait beaucoup d'acteurs et d'actrices, en l'occurrence. À commencer par Karine Viard, qui est le personnage central de cette histoire. Il y a Laetitia Doche, Oulaya Amamra, Eya Hidara, Pierre Deladonchamp, Juliette Armanet, Jean-Charles Cliché, qui est remarquable, on en reparlera, oui. C'est celui qui s'occupe des papiers, de la gestion.
Il gère les comptes, tout ça.
C'est l'administrateur, c'est le chargé d'administration.
Avec beaucoup de difficultés.
Et puis il apparaît toujours dans les films pour faire un rôle un peu sévère, il y a Laurent Stocker qui joue le rôle de l'inspecteur de l'IGAS.
Société de la Comédie Française,
depuis longtemps. Et on se doute qu'il n'est pas là pour faire du bien à La Maison des Femmes, mais bon, il faut voir le film et on comprendra mieux son rôle et ce qu'il advient après de son enquête.
Oui. Et autre figure connue du cinéma français, féminine aussi, Horatica.
Qui fait une apparition.
Pas une seule apparition quand même.
Deux apparitions. À noter que quand on note dans un générique avec la participation de...
Oui, on sait que c'est...
ça signifie surtout qu'elle n'est pas payée.
Oui, qu'elle n'est pas payée, entre autres, et qu'elle a fait gracieusement
exactement.
Quelques apparitions à l'écran.
Mais néanmoins, une des deux scènes dans lesquelles on la voit est très importante.
Et puis, vous l'avez dit, il y a Juliette Armanet. On oublie souvent que ce n'est pas seulement une chanteuse, c'est aussi une comédienne. Qui est très bien d'ailleurs, je trouve excellente dans ce film. Paul, une chose à préciser d'emblée pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que ce film s'inspire de la vraie histoire d'un établissement d'accueil pour femmes victimes de violences, la Maison des Femmes de Saint-Denis dans le 93.
Alors, ça a été une rencontre entre Mélissa Godet et Gada Atem, puisqu'elle s'appelle ainsi, qui est une gynécologue. Et en écoutant une interview radiophonique, elle se dit, là, il y a quelque chose à faire. Elle a été touchée par cette interview et elle a pris contact donc avec Gada Atem. Et ça a été le début d'une longue, de longs échanges.
De discussions.
Et alors, ce qui est assez intéressant, je trouve, dans le film, certains critiques disent, c'est un petit peu comme dans les tragédies grecques. C'est-à-dire que On est dans l'horreur, dans des situations difficiles, mais on ne les voit pas. On voit, par contre, c'est les mots des personnes, des soignants d'un côté, des personnes victimes de violences sexuelles, intrafamiliales et autres. Ça nous permet d'être attentifs à l'histoire de ces femmes, de ces soignants, de ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui accompagnent ces femmes-là. Ce n'est pas un film féministe au sens de... c'est quand même un film qui soutient les femmes en difficulté, et il y a des hommes parmi l'équipe soignante. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le voyeurisme, ni « Oh mon Dieu, comme c'est horrible !» On peut le ressentir par le témoignage des femmes, mais ça passe par la parole.
Oui, alors il y a quand même une scène de violence, mais on va y revenir. Avant cela, je voudrais, pour donner un aperçu de ce qui se passe à la Maison des Femmes dans le film de Mélissa Godet, encore une fois, ce n'est pas l'histoire stricto sensu qu'on a pu lui raconter dans la véritable Maison des Femmes de Saint-Denis, c'est inspiré d'eux. Mais on va écouter la bande-annonce où vous allez entendre plusieurs des personnages qu'on y croise et vous allez y découvrir ce qu'est leur quotidien.
La Maison des Femmes, bonjour.
Alors, c'est Amina, c'est ça?
C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose.
Et là, on donne tout. 3, 2, 1...
Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi.
Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer.
Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui n'ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là?
Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service.
Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas, les oufs.
Bah, évidemment, c'est ton fond de commerce.
Amina, souris-moi.
J'arrive pas.
T'es magnifique.
Mais ouais, t'es une bombe, Amina. Beyoncé, quand elle se réveille le matin, elle est comme nous. Hein.
Ah, même pire, si ça se trouve. Hein.
Amina, Amina, Amina.
Fière, puissante.
Amina, Amina, Amina.
Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire.
Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre.
Et puis quand ça marche pas, on va se bourrer la gueule.
Et du coup, vous faites quoi ce soir?
Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide.
Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux.
La bande-annonce de La Maison des Femmes, le premier long-métrage réalisé par Mélissa Godet, actuellement à l'affiche dans de nombreuses salles de notre région, dont l'ABC à Toulouse. Alors, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, de ce qu'il montre et de la cause qu'il défend? Parce qu'il faut bien le dire, c'est un film clairement militant quand même, Paul.
Oui, c'est clairement militant. Mais c'est une militance qui essaie de reconstruire des femmes qui ont été détruites par des agressions sexuelles et autres. Ce film se situe aussi avec une volonté de tracer l'historique. Alors, ce n'est pas un documentaire, mais c'est un film très documenté.
C'est-à-dire
que. Oui, c'est ça. Qui peut avoir valeur de documentaire, mais c'est joué par des comédiens, donc, et non pas par des personnes qui ont vécu les situations.
Oui, puis c'est romancé, évidemment, par rapport à
bien sûr.
Ce qui pouvait se passer dans cette Maison des Femmes d'origine, parce que c'est un concept, la Maison des Femmes, qui a essaimé ensuite
tout
en
à
France
fait.
À partir de celle de Saint-Denis.
C'est en 2016, je crois, qu'a commencé...
L'aventure de la Maison des Femmes de Saint-Denis.
De Saint-Denis. Et il y est fait référence, enfin, on assiste au début de cette maison, et dès le début, on assiste à sa fragilité économique, c'est-à-dire qu'elle est mise en cessation de paiement. Et donc, il y a une enquête de l'IGAS qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque-là, quoi? Vous ne pouvez pas continuer.
Bah, » Il y a des normes, il y a des règles, vous ne pouvez pas vous en affranchir, même si votre cause est juste, est bonne.
C'est
et
ça,
vous faites
oui.
Des choses,
mais bon, ils font, chacun fait son boulot. Les soignants soignent, l'IGAS dit « Vous n'êtes pas dans les... » ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, deuxième obstacle, alors ça dramatise un peu, mais c'est la réalité aussi. Ça inclut la période du Covid.
On sait qu'il y avait une recrudescence des violences indites intrafamiliales et des violences aussi
forcément,
dans les couples.
Avec la difficulté de sortir de chez soi, etc., ces femmes victimes ont été en présence constante de leur bourreau. Voilà. Ouais. Et ça rentre aussi dans la difficulté,
c'est montré, et
les actrices
en témoignent. Avec une conséquence à un moment donné d'ailleurs terrible.
Oui, tout à fait, oui.
Alors tous les personnages qu'on découvre dans ce film, qu'ils soient gynécologues, obstétriciens, comme l'est le personnage incarné par Karine Viard-Diane, qui reprend...
C'est important ce que vous dites là, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez précisé, c'est pas seulement une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences, c'est-à-dire avec des psychologues, des gens qui écoutent, des gens qui dirigent vers des services qui peuvent essayer de protéger ces femmes-là, c'est aussi une maison où on soigne, et où on intervient chirurgicalement parlant.
Parce que la maison des femmes est accolée à l'hôpital.
Voilà.
Oui. En fait, on pourrait considérer que c'est un service de l'hôpital. Ça n'a pas le même statut, mais elle est en lien avec l'hôpital. D'ailleurs, le film commence. C'est l'archétype de certaines des formes cinématographiques, à savoir, on va découvrir un lieu qu'on ne connaît pas, comment il fonctionne, les gens qui y travaillent, ceux qui y sont accueillis, et comment on fait pour le découvrir ? Bien, on le découvre avec un personnage. Un personnage qui arrive dans ce lieu, en fait, c'est le personnage de la jeune interne. Et justement, on touche du doigt que ça fait partie de l'hôpital, parce que quand elle arrive, elle est l'interne qui doit travailler avec Diane, la chirurgienne, la gynécologue, et on lui dit, elle est au bloc. Et la façon dont on lui décrit le chemin pour arriver au bloc, on se demande comment elle arrive pour y arriver, justement.
Oui, oui. Ça, c'est du vécu pour beaucoup d'entre nous,
À l'hôpital, l'hôpital est un vrai dédale. Et alors donc, à partir de là, on l'a dit, c'est un film choral, on va découvrir des personnages qui ont des fonctions différentes, qu'ils soient médecins, sages-femmes, aides-soignants, infirmiers, psychologues. Le psychologue est remarquable. On l'entend dans la bande-annonce.
C'est un fonds de commerce.
Et il est parfait parce que je m'arrête sur le personnage, c'est important parce que.
D'autant plus que c'est un des rares personnages masculins du film.
Exactement. Et ce qui est important, c'est qu'il est l'image masculine du film, des soignants, du soignant masculin du film, et qui est à l'écoute de ces femmes qui ont été le plus souvent maltraitées et abusées par des hommes. Donc il a une fonction très particulière, une double fonction, difficile de lui accorder de la confiance quand il représente la masculinité.
Le masculinisme toxique comme aujourd'hui. Pauvre garçon, en plus, il n'a pas l'air, je veux dire gentiment, très porté sur les femmes, sexuellement parlant, lui-même.
C'est parce qu'il est très posé, peut-être pas, peut-être on peut imaginer tout ce qu'on veut
Il y a une parole d'une des soignantes qui nous fait comprendre qu'effectivement...
On peut l'imaginer.
Il n'intervient pas que pour les femmes qui viennent à la maison d'accueil.
Beaucoup pour les
aussi pour
soignants.
Ses collègues.
Ben
parce que c'est très dur, évidemment, de travailler dans des lieux comme ça.
Ben, il fait des groupes de parole pour ses collègues.
De parole, et puis il a sa portée ouverte pour celles qui ont besoin de venir parler, parce que par moments, on craque.
Et il est très respectueux en même temps, enfin, il exerce bien son métier. Et je crois que c'est un des critères aussi de tout ce film, c'est de montrer que les personnes qui sont là font bien leur travail. Même si la jeune qui arrive, elle tombe dans un univers qu'elle ne connaît pas manifestement. Et elle va découvrir progressivement...
C'est une interne qui arrive dans un établissement, comme toutes les internes, pour apprendre. Oui, et puis après, elle se destine à autre chose.
C'est son dernier stage.
Oui,
c'est son dernier stage. Et elle sait déjà où elle ira.
Elle a un point de chute.
Où elle ira quand elle aura son doctorat, quand elle deviendra médecin. Et l'endroit où elle va aller n'a strictement rien à voir avec le lieu où elle va faire son stage, puisque c'est une clinique, un établissement privé de luxe. Donc,
où elle doit aller.
Ce qui permet aux femmes qu'elle va côtoyer de lui envoyer quelques tirs quand même par rapport à son futur et ce que connaissent les patientes auxquelles elle a affaire et elles ont affaire.
Il y a une chose qui est montrée aussi, c'est ce qui rejaillit dans la vie privée des personnes qui travaillent dans ces services. Beaucoup on porte avec elles parce qu'elles sont tellement investies, et on peut le comprendre, on ne peut pas faire ce métier-là de toute façon. Si on n'est pas complètement investi dans sa mission, ce n'est pas possible, on ne tient pas le coup. C'est un peu une vocation quand même. Évidemment, parfois, la vie privée s'en ressent avec le compagnon, avec les enfants. Ça ne nous est pas caché non plus, Paul.
Oui, pas du tout. C'est même abordé de façon très intéressante. Parce qu'on voit un couple avec un jeune enfant.
Un bébé.
Et on voit que la mère est tiraillée entre sa fonction maternelle, sa fonction d'épouse, avec un mari qui est très en dehors de ce qui se passe dans son travail. à elle. Eh ben, le couple, en fait, s'adore, mais ils sont dans des univers complètement différents.
Bah, parallèles, même.
Oui.
Ils se retrouvent le soir.
Voilà. Et à un moment...
C'est tenté qu'ils se retrouvent. Parfois, ils n'ont même pas le temps. Hein.
À un moment, on se demande si le couple ne va pas exploser.
Bah, elle le dit, d'ailleurs, elle, à ses collègues.
Elle, et elle le dit
ça
à ses collègues.
Et
là, il y a un soutien entre les collègues pour qu'elle
se
défende. Et on voit que le mari vient aussi s'excuser et lui offre un bouquet de fleurs. Enfin, c'est assez subtil.
Chaque personnage, outre la fonction qu'il a dans cette maison des femmes, a aussi une fonction cinématographique. Et le personnage... intéressant, passionnant, qui montre, qui souligne la frustration de cette équipe face au pouvoir public et cette épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête, à savoir on va fermer leur maison des femmes. C'est le personnage incarné par Eye Ahidara, l'infirmière, qui passe son temps à râler. Elle déverse sa frustration, elle dit toujours des choses sensées,
mais
force est de constater que y a, c'est compliqué d'aller au-delà de ces choses-là pour pouvoir continuer à œuvrer, à travailler. Quoi.
D'ailleurs, ce personnage est le seul qui se fait agresser dans le film.
Oui.
Oui.
Et agressé par qui ? Par une femme.
Et oui, bien sûr.
Elle se fait agresser par une femme.
Oui, elle prend un coup. Elle prend un coup, oui, effectivement.
Un coup, par exemple, qui arrive complètement
violent,
elle lui dit, ben non, madame, ça ne va pas être chez nous, ne me parlez pas comme ça. Puis à un moment, boum, elle prend un coup.
Oui, parce qu'on voit aussi ces femmes qui attendent la salle d'attente. C'est l'hôpital, on attend d'être reçu ou pas reçu.
Et,
et c'est son cas. La femme qui va frapper Awa, elle est là.
Elle ne supporte plus d'attendre, elle veut qu'on s'occupe d'elle.
Et elle a besoin d'une... d'une ordonnance.
Une ordonnance.
Ouais, oui.
Une ordonnance. C'est la seule scène d'agression du
film.
Oui,
c'est vrai.
Et c'est une femme qui agresse une autre femme.
On aurait pu redouter justement les agressions masculines envers ces femmes, mais justement, comme l'a souligné Paul, tout ça est mis à distance. Enfin, mis à distance. On ne le voit pas, mais on l'entend. On demande si c'est pas de temps en temps pire, même des mots, même des femmes qui racontent ces expériences particulièrement douloureuses. Quand je dis douloureuse, je suis en dessous de la réalité.
Oui. Et je trouve intéressant ce procédé cinématographique parce que on n'est pas pris émotionnellement de façon très très importante parce qu'on verrait, mais on est attentif à ce que disent les femmes. Et ça, je trouve que c'est une fonction très intéressante dans ce choix de mise en scène. On ne voit pas, mais on écoute celles qui ont été victimes. Et ça, c'est quand même très fort.
Oui, alors ce qu'il faut dire, ça se passe en Seine-Saint-Denis, hein, puisque c'est la maison des femmes originelle qui sert de modèle. Et beaucoup de femmes qui viennent à cet établissement sont issues de l'immigration plutôt africaine et donc de cultures où on violente les femmes et souvent on les mutile. Beaucoup de femmes qui ont subi des excisions. Et on nous montre, et ça nous est montré de façon non pas crue, mais de façon claire, on tombe pas
réaliste.
Autour du pot. Même on voit à un moment donné Karine Viard qui tient un sexe de femme en plastique pour montrer ce que c'est un clitoris, comment c'est fait, et le travail de reconstruction qu'elle fait derrière.
Et dans les témoignages des femmes, il y en a une qui dit « mais c'est ma grand-mère qui m'a emmenée ».
Parce qu'elles ont été excisées alors qu'elles étaient enfants, toutes jeunes enfants.
Oui, ou adolescentes. Quoi.
Dans la culture, alors c'est la grand-mère qui emmène la petite fille pour qu'elle soit pure. Donc c'est quelque chose, pour la grand-mère, quelque chose de positif. Et elle est passée par là.
Parce qu'elles ont masqué la tradition depuis des siècles.
Voilà. C'est un univers complètement différent et on le voit bien.
Oui. En revanche, il y a une seule femme qui va être tuée parmi celles qu'elles reçoivent.
Oui.
Ce n'est pas une femme issue justement de ces pays-là. C'est une Française blanche, une boumeuse, j'allais dire, parce qu'elle a 65 ans, nous dit-on.
Oui.
Qui est la femme d'un médecin, si je ne suis pas
trompé. Oui, donc c'est bourgeoise.
Bourgeoise.
C'est bourgeoisie parisienne.
Et c'est une femme violentée qui, pendant très longtemps, a été dans le déni, qui finit par quand même venir à l'établissement et accepter de rentrer dans les parcours qui sont proposés à ces femmes-là. Et puis, survient le Covid. Elle va revenir chez elle. On voit une séance de visio où elle discute avec la sage-femme, qui est jouée par Laetitia Doche, et qui lui dit « Non, mais je suis revenue, mais on a parlé avec mon mari, tout va bien. » Et un jour, toute l'équipe apprend qu'elle s'est fait tuer par son mari.
Oui.
C'est le moment dramatique de l'histoire. Il y a le fait, je soulignais le personnage d'Awa qui montre la difficulté du travail, mais après il faut toucher du doigt le drame et comment vivre ça, en, en essayant, j'allais dire, accepter, tolérer la disparition d'une personne qu'on voulait sauver, qu'ils étaient en mesure de sauver.
La culpabilité, est-ce qu'on a tout fait bon, bah, évidemment.
Est-ce qu'on n'aurait pas dû l'obliger c'est compliqué.
Mais dans ces cas-là, on se pose tous la même question, évidemment, quand ça arrive. Hein.
Ouais. Alors, le film montre bien aussi la volonté de ces femmes,
la pugnacité.
Ils sont menacés
de disparaître,
et dit, eh ben on va y aller, on va foncer, on va faire...
On s'agrandit.
Les médias, on va s'agrandir,
parce qu'il y a,
on va communiquer parce qu'on l'a
fait. Elles sont au deuxième, je crois, ou au premier. Enfin, il y a un étage qui est au-dessous, qui n'est pas utilisé, qui est à l'abandon. Donc, ben, on va s'étendre.
Alors, il y a quand même des moments, parce que tout ce qu'on dit là, effectivement, peut paraître lourd, tragique, bien sûr, et ça l'est. Il y a un moment marrant, c'est les gens de l'IGAS, c'est ça, donc ils viennent contrôler comment fonctionne cet établissement. Manifestement, ils ne sont pas dans les clous, comme on dit,
administrativement parlant.
Et ils sont vus bah, comme les fouilles merdes qui viennent pour les bœufs carottes, ils disent même à un moment donné, pour chercher tout ce qui permettra de faire fermer l'établissement. Et à un moment donné, ils viennent faire leur rapport. Donc tout le monde retient son souffle, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont leur sortir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ils disent, oui, vous n'êtes pas dans les clous, mais ce que vous faites, c'est formidable.
Toutes et des maisons qui font du bien, il n'y en a pas beaucoup.
Et on l'a entendu dans dans l'extrait,
oui.
Les gens qui font du bien, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, ils comprennent que là, maintenant, les pouvoirs publics vont les soutenir.
Oui. Et de fait, il y a actuellement plus de 30 maisons
Dans diverses grandes villes de France.
Dans les grandes villes de France. Voilà. Oui.
Qui procèdent de la même façon et qui accueillent de la même façon toutes les femmes.
On va pas en dire plus. Hein.
Non.
Voilà ce qu'on
en a dit
dire,
beaucoup
de ce film. À chacun maintenant de se faire son idée en allant voir La Maison des Femmes à l'ABC à Toulouse ou dans les salles de cinéma où il est projeté dans notre région. Je rappelle que vous pouvez rencontrer Paul et Louis-Marie mardi prochain le 17 mars pour le Ciné-Parole qu'ils animent à l'ABC après la projection du film. Celle-ci commençant à 14h30. Dans quelques minutes, nous allons donc revenir sur Golgotha, film sur la passion du Christ, tourné en 1935 par Julien Duvivier. Sa bande originale était composée par Jacques Ibert. Je vous propose d'en écouter un extrait, Les Vendeurs du Temple.
présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne pour la seconde partie de ce grand écran de Vivante Église où je retrouve Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Nous allons revenir dans cette seconde partie sur Golgotha, film sorti en 1935, réalisé par Julien Duvivier. Il retrace la vie et la passion du Christ de son entrée à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection. C'est le premier film parlant où l'on entend la voix de Jésus. Duvivier le tourne alors qu'il est un cinéaste déjà reconnu, admiré, qui a commencé sa carrière 15 ans plus tôt et qui est lui-même passé au parlant quelques années auparavant. Pour ce tournage, il retrouve son acteur fétiche, Harry Bore, grande vedette de l'époque à qui il a confié le rôle du roi Hérode. Jean Gabin tient le rôle de Ponce Pilate à la demande du cinéaste, les deux hommes étant amis dans la vie. Edwige Feuillère joue le rôle de son épouse, Claudia Procula, et Robert Le Vigan incarne Christ à l'écran. On va en reparler. Cette même année 1935, Duvivier tournera La Bandera avec les mêmes Gabin et Le Vigan, puis La Belle Équipe en 1936 et Pépé le Moko en 1937, encore avec Gabin en vedette. Tout ça pour dire que ce grand cinéaste, parfois inconstant, entame avec Golgotha une série de films qui vont asseoir sa réputation. Paul et Louis-Marie, est-ce que vous aviez déjà vu Golgotha avant que je vous le propose pour cette émission ?
Oui.
Oui, moi aussi, oui. Oui, oui. Et ce qui est assez frappant et stupéfiant, c'est la qualité des images, le décor. C'est extraordinaire quand on repense que le film a été tourné en 1935. Donc les moyens techniques n'étaient pas ceux dont on dispose de nos jours. Et c'est incroyable. Les décors, il faut dire quand même que certains décors ont été construits en dur. Pas tous, hein, pas tous, mais certains d'entre eux ont été construits en dur pour reproduire Jérusalem.
Jérusalem, bah,
c'est assez extraordinaire.
Pour moi, c'est 37 mètres de haut, et ça a été construit pour le film. Et évidemment, c'est un film qui, pour l'époque, bien sûr, avait coûté très cher.
Oui.
Beaucoup d'investissements. Alors peut-être, Paul, ce que vous pouvez raconter, c'est la petite histoire du film et puis du scénario surtout, parce que c'est un chanoine qui est à la base de cette production.
Oui, à la base, et en même temps, il a été très actif dans cette production puisqu'il a co-écrit le scénario avec Duvivier, donc c'est le chanoine Joseph Raymond. Ils se sont, l'un et l'autre, Duvivier et le chanoine Raymond, de faire un Christ qui sort un peu de l'image sulpicienne, où on a des Christs assez...
Éthérés un peu.
Oui. Oui, c'est ça, des crises qui n'ont pas beaucoup de consistance. Alors, ça garde une certaine rigueur aussi. Hein.
Ah, c'est très fidèle aux écritures.
Voilà.
Ça,
oui,
c'est... on ne peut pas critiquer là-dessus, voilà. Je ne crois pas.
Il y a juste quelques omissions, mais parce que le film ne raconte pas, n'est pas une lecture de l'Évangile, mais il est très très fidèle à l'esprit. Et Duvivier cherche aussi un certain réalisme. Il est allé à Jérusalem... Il a dit, mais ça ne va pas du tout, parce que le Jérusalem d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Jérusalem du temps du Christ.
Oui.
Donc il choisit de tourner en Algérie.
Et, qui à l'époque est française, rappelons-le.
Qui est à l'époque effectivement française. Et il embauche, enfin, il l'a fait intervenir, il sollicite 4000 figurants.
Pour les scènes de foule.
Pour les scènes de foule.
Ils sont
qui sont habillés d'ailleurs. Comme ils sont habillés.
Ah oui, c'est les costumes d'époque.
En 1935.
Oui.
Ce qui est audacieux aussi, c'est qu'il fait intervenir aussi des acteurs qui sont connus ou qui commencent à être connus et pour lesquels ça va ouvrir une carrière cinématographique qui va les promouvoir.
Alors les premiers d'entre eux, c'est Gabin, parce qu'il a tourné avec lui l'année précédente Maria Chapdelaine,
oui.
En 1934. Mais Gabin n'est pas encore la grande vedette qu'il va devenir, grâce à Duvivier d'ailleurs, avec le tournage de La Bandera, de La Belle Équipe et de Pépé de Moko les années suivantes.
C'est ces films qui assieront sa notoriété, incontestablement. Ce sont deux très grands films.
Il a 30 ans, Gabin, 31 ans quand
il est tout jeune.
Il accepte le rôle par amitié pour Duvivier.
Ah oui, s'il ne voyait pas dedans.
Ça ne l'emballe pas du tout.
Il
ne
voyait pas du tout dans le rôle de Ponce Pilate.
D'ailleurs, il soulignait les petites jupettes romaines.
Ça et il est vrai que même aujourd'hui, alors il n'est peut-être pas aussi mauvais que certains ont pu le dire, mais ce n'est pas un rôle pour lui, quoi. Moi, je trouve que ce n'est pas un rôle pour lui.
Son accent titi parisien perce un peu. Ça fait un drôle
de Ponce Pilate.
Mais le film est entouré de polémiques, d'abord parce que c'est une... super production, ensuite par son sujet, évidemment, donc Duvivier a affaire à la presse anticatholique. Le canard enchaîné.
Bah, Henri Janson, c'est Janson oui, qui
ah oui,
il appelle ça le Nave Maria.
Oui, le oui, Nave oui Maria. Dans son article.
Le Nave Maria.
Et il a même eu un problème avec un autre journaliste, Bertrand de Jouvenel, avec lequel même ça s'est tellement envenimé qu'il avait provoqué en duel.
En duel, oui, à l'époque ça se faisait.
Oui, oui. Ça se faisait encore. Alors il y en a un qui voulait que ce soit torse nu avec l'épée et l'autre carrément à la hache.
Oui,
oui. Ouais,
en fait, bon, ils n'ont rien fait.
Non, ça s'est calmé finalement. Avec les artifices qui permettent au duel de ne pas avoir lieu. Parce qu'à partir du moment où on a provoqué un duel, il faut qu'il ait lieu.
Oui, oui. Oui.
Bon, alors, oui, ce revenons au film aussi. Revenons.
Certains lui reprochaient, en gros, d'être un film colonialiste, au sens voilà, où il se oui tournait en Algérie, avec les locaux. Hein,
qu'il exploitait.
Voilà, qui était exploité. Et aussi, c'est un film qui coûtait très cher.
Oui.
Il y a ça. Pour l'époque, ça coûtait très cher, vu les sommes investies pour les décors. Et ce qui a fait taire un peu les mauvaises langues, entre guillemets, c'est que le film a eu beaucoup de succès. Ouais. Un vrai succès
oui
public.
Ah oui, oui, oui. Et pendant des années. Oui. Je crois que c'est 1,4 million.
Oui, 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 ce qui pour l'époque était énorme.
Oui, oui.
Même encore aujourd'hui, c'est beaucoup, 1,4 million tous les films.
Ouais, il faut penser aussi qu'il y avait beaucoup de salles de cinéma en France, mais pas autant qu'il y en a aujourd'hui, maintenant,
oui, aujourd'hui. Sûr.
Et que les salles, il y en avait, les cinémas, c'était une salle. Et à partir du moment où le cinéma était mobilisé pour un film, ben, pas d'autres films pouvaient prendre l'écran. Donc c'est compliqué. Ça explique aussi les performances du film. On parle d'un million. Maintenant, on se dit bah, 1 million. Alors oui,
ça, c'est quand même déjà pas mal aujourd'hui.
Non, non, non,
même aujourd'hui. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Mais à l'époque, c'était énorme.
Mais à l'époque, ça représentait un nombre de spectateurs considérable, avec des queues interminables devant les cinémas.
Et puis il n'y a pas des cinémas partout à l'époque.
Oui. Hein, ben oui.
Ce qui dit aussi quelque chose du rapport des publics de l'époque avec le domaine religieux
ben
aussi.
Oui.
Hein.
Oui.
Et l'Église a contribué beaucoup à ce que le cinéma soit un lieu de proposition de ce que les chrétiens croient et suivent. Ce qui est intéressant aussi dans le film, la volonté de Duvivier de dépoussiérer ce sujet-là, en accord avec ce que disait le chanoine Joseph Raymond.
Il ne voulait pas que ce soit un film de patronage, il avait dit d'emblée, hein,
ouais,
le chanoine, il faut que ce soit un film grand public, pour le public.
Pour le public. Et il s'attache, les deux co-scénaristes, à montrer les répercussions des paroles du Christ
sur la société
sur de l'époque,
sur
de l'époque.
Le pouvoir,
voilà.
Les pouvoirs même. Ouais. À la fois le pouvoir religieux incarné par le Sanhédrin, l'establishment juif de l'époque,
oui,
puis les Romains, qui est l'occupant, mais qui eux veulent que, bon, ils n'aiment pas les fauteurs de troubles, évidemment.
Et la foule, avec le côté très versatile de la foule, qui acclame le Christ rentrant à Jérusalem. Et là, il y a des séquences où la caméra accompagne la foule.
C'est extraordinairement filmé.
Il
était très fort pour filmer les foules. Là.
Et
on le voit dans Panique.
Il est dans la foule.
Il est dans la foule.
Il est dans la foule.
C'est, on voit la foule de l'intérieur. Par moments, il y a des mouvements de foule. Par moments, il y a des gros plans sur le visage.
Oui.
C'est extrêmement bien fait. Hein.
Et on voit comment la bascule est brutale. Quoi. Une foule qui est manipulable et manipulée. Et que celui qu'ils acclament, le lendemain, il mérite la mort.
Parce qu'en fait, il s'attarde beaucoup plus sur l'aspect religieux du Christ,
oui,
plus sur l'aspect social et politique.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vient bousculer, social et politique.
Voilà. Oui, c'est ça. Il vient confronter le Sanhédrin, enfin se poser au Sanhédrin. Il y a la foule qui le suit parce qu'il fait des miracles. Et puis, il y a l'explosion. Il faut qu'il meure, quoi. Il faut qu'il meure.
Il y a la scène qui est très bien filmée. On la voit, c'est une des premières scènes où on voit le Christ, mais on le voit de dos.
Oui.
C'est la scène, on a entendu l'extrait tout à l'heure de la bande originale, des vendeurs du temple.
Oui.
C'est, on parlait de la mise en scène aussi, ce parti pris d'être un peu dans une description du comportement de la foule, puisque Duvivier ne fait pas de Jésus le fils de Dieu, il ne le souligne pas, comme il ne fait pas de lui un fou ou un imposteur. C'est-à-dire qu'il se place en observateur. Et oui, on voit, et vous l'avez souligné, comment, et c'est ce qu'il veut montrer, comment une foule qui peut adorer ou aduler un personnage instantanément change de comportement et prête à le tuer instantanément. Quoi.
Oui.
de la même
qui
façon.
S'agglomère d'un seul coup pour ça, on voit bien. Oui.
Il y a une certaine noirceur dans ce film.
Ce que ça montre de la nature humaine n'est pas forcément toujours très reluisant.
Oui, parce qu'il n'est pas édulcoré.
Il fait une description tout à fait sèche des événements, Il montre ce qui s'est passé.
Clinique.
Voilà, exactement.
Et c'est de ce point de vue aussi que ce film a une valeur documentaire. On se dit, oui, ça s'est passé comme ça. Et les gens se comportaient comme ça.
Oui. Avec une certaine, je pense, par exemple, à la flagellation. Là aussi, il y a une certaine pudeur, je dirais. C'est-à-dire qu'on entend la brutalité de la scène, mais on voit la foule qui regarde à travers le portail, qui voit la flagellation, mais nous, on ne la voit pas, ou très peu.
Qui ont l'air d'en jouir un peu, en plus.
Ah ben bah, oui,
ça ne montre pas mieux.
Oui, c'est un spectacle
très reluisant de la nature humaine.
La noirceur de la nature humaine.
Parce que finalement, le Christ, on va parler de Le Vivant, bien sûr, parce qu'il faut qu'on en parle, de son interprétation, de son incarnation extraordinaire. Mais le Christ, finalement, on le voit assez peu, et on l'entend assez peu.
Oui, oui.
À chaque fois, ce sont les paroles des évangiles. Rends à César ce qui est à César. Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Bon, voilà, mais c'est très sobre. Le Vigan qui, dans la vie, n'est pas du tout d'ailleurs un personnage sobre, mais qui là l'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Parce que moi, je trouve que c'est le Christ le plus extraordinaire de l'histoire du cinéma, Le Vigan.
Il était un petit peu déjà... Il avait quelques petits problèmes d'ordre psychologique, on peut dire ça comme ça.
Pour ceux qui s'intéressent au vrai personnage de Vigan, conseille la lecture de Nord, de Louis-Ferdinand Céline. Et vous verrez, c'était un proche de Céline, vous verrez un peu comment pouvait être le Vigan dans la vie.
Et il avait décidé, à partir du moment où il a accepté le rôle, de rester tout le temps...
Même en dehors des prises.
En dehors des prises, il restait le personnage, il restait Jésus, comme aussi pour lui ressembler...
Il s'est fait arracher les dents.
Il s'est fait arracher les dents pour avoir le...
Émacié. Encore plus émacié qu'il l'était déjà pas mal.
Oui, mais il faut avouer qu'après, pour les images, c'est stupéfiant.
C'est impressionnant.
Quand les gros plans de son visage sont impressionnants.
C'est vraiment impressionnant, une des choses les plus impressionnantes d'ailleurs dans le film. Il y a les scènes de foule et puis il y a les gros plans sur le visage de Le Vigan en Christ, lumineux et blafard à la fois. Hein. C'est plus presque un esprit déjà qu'un corps.
Cette alternance, mise en rapport de ce Jésus seul et des réactions que ça suscite et dans le peuple et dans les responsables du culte de l'époque. Et on voit bien comment il est un élément perturbateur, non seulement perturbateur, mais qui doit disparaître parce que c'est trop dangereux.
Oui.
C'est trop dangereux.
C'est un
quelqu'un comme ça,
c'est
trop dangereux.
C'est quelqu'un qui remet
il faut qu'il meure.
L'ordre établi.
Oui, l'ordre établi.
Alors, il y a des personnages, je voulais venir. Moi, le personnage de Claudia Procula, joué par Edith Schoeyer, j'avoue que je ne sais pas très bien ce qu'il fait dans le film.
Oui.
Je pense qu'il fallait la caser, sans doute. Elle devait avoir un rôle parce que c'était une jeune actrice qui, à l'époque, elle a, je crois, 27 ans, en 1935, qu'il fallait sans doute mettre en avant. Alors, est-ce qu'elle a été imposée par les producteurs? J'en sais rien, mais je ne vois pas très bien ce qu'elle apporte dans le film. Beaucoup plus intéressant, c'est Harry Bore en Hérode. Formidable.
C'est un acteur extraordinaire.
C'est
un des plus grands acteurs français qui ait vécu, qui a été existé. Il est
immense vedette à l'époque.
C'était
immense vedette, Harry Bore.
Encore plus que tous les autres acteurs qui sont au générique.
Oui, parce que encore une fois, Gabin, ce qu'on appellerait aujourd'hui un acteur émergent, c'est pas encore le Gabin qu'on connaîtra. Ensuite.
Et c'est ce qui fait sourire maintenant, parce qu'on est toujours, ce qui a fait sourire déjà à l'époque aussi, mais même maintenant, on fait toujours, Gabin dans le rôle de Ponce Pilate, ça fait toujours...
D'autant plus qu'il y va vraiment en reculons.
Oui.
Il l'a toujours dit, Mais même, Le Vigan, qui est un personnage un peu curieux, quand on lui parlait de Golgotha après, parce qu'évidemment, dans la carrière d'un acteur, jouer le Christ, c'est quand même quelque chose d'extrêmement
marquant.
Oui,
surtout à l'époque,
c'était... Il disait que c'est un film cucu, lui.
Oui.
Il disait que c'est un film cucu, avec son langage fleuri. Un acteur que je trouve formidable aussi, c'est celui qui joue Caïf, évidemment, en personnage central, dans ces épisodes précédant la Passion du Christ, qui est joué par Charles Granval, mais qui devait jouer, à l'origine, je crois que c'était Charles Vanel, un autre Charles, il avait été approché, il a refusé, ça s'est pas fait finalement. Il était peut-être engagé sur un autre tournage. Mm-hmm. Mais il est formidable cet acteur, je trouve, dans ce rôle extrêmement important, bien sûr, aussi.
Non mais c'est un film qui mérite d'être vu. quoi qu'on en pense, pour le traitement, pour tout ce qui... Vu ou revu, hein, bien sûr, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un film qui a été oublié dans la filmographie du Vivier. Vous avez signalé à juste titre les autres films du Vivier qui sont beaucoup plus célèbres et qui ont fait la notoriété du Vivier et des acteurs à qui confier les rôles. Mais ce film mérite d'être vu pour le parti pris même de montrer Jésus, la vie de Jésus, le tournage, même les procédés techniques, on a parlé des décors aussi, l'utilisation de la caméra, entrer dans la foule, la caméra subjective, c'était peu utilisé à l'époque, on a les yeux de Jésus. Donc il y a beaucoup de choses qui font de ce...
Encore une fois, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on entend le Christ parler à l'écran. Oui. Il faut imaginer ce que ça pouvait être, je pense, à l'époque pour ceux qui...
Pour ceux qui regardaient le film.
Ceux qui l'ont découvert en 1935 lorsqu'il est sorti.
Pour en finir, c'est un peu plus qu'une curiosité quand même.
Oui. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre dans la filmographie du Vivier, ça c'est certain, mais c'est quand même un film important qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Eh bien, le moment est venu de conclure cette émission et de vous remercier l'un et l'autre d'y avoir participé. Je rappelle que le Ciné-Parole, que vous animez mardi prochain à l'ABC le 17 mars, est consacré à La Maison des Femmes, le film de Mélisa Godet. L'échange avec le public a lieu à l'issue de la projection qui commence, elle, à 14h30. Je rappelle aussi à nos auditeurs cinéphiles leur rendez-vous chaque mercredi à 19h en direct sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.